Bonsoir, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Son sourire m'avait manqué, beaucoup de choses du reste. Bohand Baha, un rythme, des sourires à l'infini, des hymnes de l'amour. J'avais posé mon sac comme on dépose un panier trop lourd. La chaleur s'était imposée depuis mon départ. Cela n'y changeait rien. Une connexion évidente, une nouvelle rencontre. Le souvenir est fluide pour qui veut le suivre. Je retrouvais leur visage, la vie avait suivi son cours, en parallèle à celui de la rivière. Son volume avait grossi, déjà les pluies de la mousson apportaient leur nouveau message. Les pèlerins savaient s'adapter aux paroles de leur mère. L'humilité de la rencontre se jouait des éléments. Une nouvelle rencontre. Autant de choses précieuses portées avec élégance. En début d'après-midi, il y avait maintenant moins de monde dans la rue. Les vaches se déplaçaient avec encore plus de lenteur. Les chiens trouvaient refuge sous des ombres fraîches. Les hommes, pour beaucoup, continuaient à se laisser prendre par la vague, quand les plus sages appréciaient cet entracte. Nous étions là, s'adressant à elle, un nectar dans un écrin précieux. Et lui, avec son éventail, n'épouvantait même pas les mouches. Son sourire, ses yeux, sa folie. Il était là, nous étions là.
Il se sera perdu, le navire archaïque, aux mers où baigneront mes rêves éperdus, et ces immenses mâts se seront confondus dans les brouillards d'un ciel, de Bible et de cantique. Et ce ne sera pas la grecque bucolique qui doucement jouera parmi les arbres nus, et le navire saint n'aura jamais vendu la très rare denrée au pays exotique. Il ne sait pas les feux des havres de la terre Il ne connaît que Dieu et sans fin, solitaire, il sépare les flots glorieux de l'infini. Le bout de son beaupré plonge dans le mystère. Aux pointes de ses mâts tremble toutes les nuits l'argent mystique et pur de l'étoile polaire. Ce matin, j'ai reçu un courrier étrange, terrible et drôle à la fois. Il était signé AA. Je ne crois plus aux mots des poèmes. Je ne crois plus aux mots des poèmes car ils ne soulèvent rien et ne font rien. Autrefois, il y avait des poèmes qui envoyaient un guerrier se faire trouer la gueule. Mais la gueule trouée, le guerrier était mort. Et que lui restait-il de sa gloire à lui ? Je veux dire, de son transport. Rien. Il était mort, cela servait à éduquer dans les classes les cons et les fils de cons qui viendraient après lui et sont allés à de nouvelles guerres atomiquement réglementées. Je crois qu'il y a un état où le guerrier, la gueule trouée et mort, reste là. Il continue à se battre et à avancer. Il n'est pas mort. Il avance pour l'éternité. Mais qui en voudrait sauf moi ? Et moi qu'il vienne, celui qui me trouvera la gueule. Je l'attends. La nuit était venue, la lune émergeait de l'horizon, étalant sur le pavé bleu du ciel sa robe couleur soufre. J'étais assis près de ma bien-aimée, oh bien près. Je serrais ses mains, j'aspirais la tiède senteur de son cou, le souffle enivrant de sa bouche. Je me serrais contre son épaule, j'avais envie de pleurer. L'extase me tenait palpitant et perdu. Mon âme volait à tire-d'aile sur la mer de l'infini. Tout à coup, elle se leva, dégagea sa main, disparut dans la charmoire et j'entendis comme un crépitement de pluie dans la feuillée. Le rêve délicieux s'évanouit. Je retombai sur la terre, sur l'ignoble terre. Oh mon Dieu, c'était donc vrai, elle, la divine aimée, elle était, comme les autres, l'esclave de vulgaires besoins. Là où l'aventure garde les yeux clairs, là où les femmes rayonnent de langage, là où la mort est belle dans la main comme un oiseau, saison de lait, là où le souterrain cueille de sa propre génuflexion un luxe de prunelles plus violent que des chenilles, là où la merveille agile fait flèche et feu de tout bois. Là où la nuit vigoureuse saigne une vitesse de purs végétaux. Là où les abeilles des étoiles piquent le ciel d'une ruche, plus ardente que la nuit. Là où le bruit de mes talons remplit l'espace et lève à rebours la face du temps. Là où l'arc-en-ciel de ma parole est chargé d'unir demain à l'espoir et l'infant à la reine. D'avoir injurié mes maîtres, mordu les soldats du sultan, d'avoir gémi dans le désert, d'avoir crié vers mes gardiens, d'avoir supplié les chacals et les hyènes pasteurs de caravanes. Je regarde, la fumée se précipite en cheval sauvage sur le devant de la scène, hurle un instant la lave de sa fragile queue de paon, Puis, se déchirant, la chemise s'ouvre d'un coup, la poitrine, et là, je la regarde en île britannique, en îlot, en rocher déchiqueté, se fondre peu à peu dans la mer lucide de l'air, où baigne, prophétique, ma gueule, ma révolte, mon nom. Allô, allô, encore une nuit, pas la peine de chercher. C'est moi l'homme des cavernes. Il y a les cigales qui étourdissent leur vie comme leur mort. Il y a aussi l'eau verte des lagunes, même noyée. Je n'aurai jamais cette douleur-là pour penser à toi. J'ai déposé tous mes maux au mont de Piété, un fleuve de traîneaux de baigneuses dans le courant de la journée blonde, comme le pain et l'alcool de tes seins. Allô, allô, je voudrais être à l'envers, clair de la terre, du bout de tes seins à la couleur et le goût de cette terre-là. Allô, allô, encore une nuit. Il y a la pluie et ses doigts de fossoyeur. Il y a la pluie qui met ses pieds dans le plat sur les toits. La pluie a mangé le soleil avec des baguettes de chinois. Allô, allô, l'accroissement du cristal, c'est toi. C'est toi, eau absente dans le vent et baigneuse de lombric. Quand viendra l'aube, c'est toi qui poindras tes yeux de rivière sur les mailles bougées des îles. Et dans ma tête, c'est toi le maguet éblouissant d'un ressac d'aigle sous le banyan. Las du triste hôpital et de l'encens fétide qui monte en la blancheur banale du rideau vers le grand crucifix ennuyé du mur vide, le moribond sournois y redresse un vieux dos, se traîne et va, moins pour chauffer sa pourriture que pour voir du soleil sur les pierres, coller les poils blancs et les os de la maigre figure aux fenêtres qu'un beau rayon clair veut aller. Et la bouche, fiévreuse et d'azur bleu vorace, telle, jeune, elle alla respirer son trésor, une peau virginale et de jadis en crasse, d'un long baiser amer, les tièdes carreaux d'or. Ivre, il vit, oubliant l'horreur des saintes huiles, les tisanes, l'horloge et le lit infligé, la toux. Et quand le soir saigne parmi les tuiles, son œil, à l'horizon de lumière gorgée, voit des galères d'or, belles comme des cygnes, sur un fleuve de pourpre et de parfum, dormir en berçant les clairs fauves et riches de leurs lignes dans un grand nonchaloir chargé de souvenirs. Ainsi, pris du dégoût de l'homme à l'âme dure, vautré dans le bonheur, où ses seuls appétits mangent, et qui s'entête à chercher cette ordure pour l'offrir à la femme allaitant ses petits. Je fuis et je m'accroche à toutes les croisées d'où l'on tourne l'épaule à la vie, et, béni, dans leur verre, lavé d'éternelle rosée que dort le matin chaste de l'infini, je me mire et me vois ange, et je meurs, et j'aime que la vitre soit l'art, soit la mysticité à renaître, portant mon rêve en diadème au ciel antérieur où fleurit la beauté. Mais, hélas, ici-bas et maître, sa hantise vient m'écœurer parfois jusqu'en cette abri sûr, et le vomissement impur de la bêtise me force à me boucher le nez devant l'azur. Est-il moyen, au moi qui connais l'amertume, d'enfoncer le cristal par le monstre insulté et de m'enfuir avec mes deux ailes sans plumes, au risque de tomber pendant l'éternité? Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'on semble à laver joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son van. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Un enfant a dit « Je sais des poèmes ». Un enfant a dit « J'ai des poésies ». Un enfant a dit « Mon cœur est plein d'ailes ». Un enfant a dit « Par cœur, ça suffit ». Un enfant a dit « Ils en savent des choses ». Un enfant a dit « Et tout par écrit ». Si le poète pouvait s'enfuir à tire-d'aile, les enfants voudraient partir avec lui. Et l'enfant a grandi. Du lagon monte une odeur de sang et une armée de mouches qui colportent aux femmes la froide des bijoux de la ménopause. L'état-major du crime s'est installé très confortablement sur le passage de l'histoire dont l'épilepsie n'a jamais été si grande que dans ce temps où chaque inscription est une aventure dont chaque lettre saute en paquets de cartouches. Une affinité de poussière conduit aux semaines qui sont les rainures coulissières d'une guillotine devant laquelle l'accusateur public monte la garde. En tout état de cause, l'élévation et la chute du corps avertissent à tout moment de l'étape atteinte par la digestion toujours difficile des avatars géologiques. On n'a que faire des taupes qui gonflaient la terre, de la poussée saisonnière, de l'insurrection. On n'a que faire du soleil, c'est une fille violée qui n'ose plus rentrer à la maison. En tient lieu une contre-pluie de sable et de boue dans l'offensive au-dessus des villes imite la perfection d'indiscipline des troupes de la lumière polarisée au demeurant en dépit des antilopes amygdales qui se réunissent après une longue course à l'aube de palmiers que font les pleurs sous les coups aimés et que ne chassera jamais la main sagace des consolations. Pas plus qu'une superstition n'entamera le bel arbre réservé à la hache des cœurs idolâtres, en dépit du sang qui peint les billots et jette au travers de son masque le bouquet de fleurs prématuré d'un scalp. Bise et couteau des astres, échangeant avec les satellites convexes, le petit salut aidant que nous échangeons avec l'ortolan des neiges. Pour nous seuls, à l'aide décriée des fragiles lucarnes, d'où le contrepoison lance à l'ordinaire de son ciel peu loquace le train des sauveteurs de la mer sur les rails de ce val dépêché à mongré au fond de la Calayas, muletière d'une catastrophe sans repère. Tu reviendras sûrement avec des tas d'histoires, à compter aux étoiles les soirs de solitude, un regard bien fixé sur le bout d'un bout de chemin. C'est là que tout recommence. C'est là finalement que tout commence. T'as le sourire de ceux que tu croises ici-bas, des sourires et des rires, des chagrins de nos misères. Il y a un tas d'endroits où tu peux t'arrêter. Il y a un tas d'endroits où tu peux voyager. Condamné à bouger, c'est une belle sentence. C'est une chance immense aux odeurs de printemps. Tu reviendras sûrement avec un tas d'histoires qui t'inspireront sûrement pour raconter la tienne, pour raconter la mienne. Tu reviendras sûrement avec des tas d'histoires à compter aux étoiles, les soirs de solitude. C'est là que tout commence. C'est là que tout recommence. T'as le sourire de ceux que tu croises ici-bas. Il y a un tas d'endroits où tu vas t'arrêter. Il y a un tas d'endroits où tu vas voyager. Car condamné à bouger, c'est la plus belle sentence. C'est une chance immense. Tu reviendras sûrement avec un tas d'histoires qui t'inspireront pour raconter la tienne, pour raconter la mienne, pour raconter la tienne, pour raconter la mienne, pour raconter la tienne, pour raconter la mienne, pour raconter la tienne.
Vu qu'apparemment, quand je fais une crève de la faim, je me laisse crever de faim, tout le monde s'en fout, parce que comme je suis déjà anorexique, on voit pas la différence. Et ben d'accord, je vais faire tout l'inverse, ok? Et si encore une personne qui dit du mal maintenant des mannequins femmes, je vous jure, ce radis, je le bouffe en direct sur ce plateau, je deviens obèse sous vos yeux et vous aurez tous ma mort sur votre conscience, ok? Non mais stop, là, excusez-moi, mais faut arrêter cette polémique là de les mannequins femmes gagnent plus que leurs homologues, pardon, que les hommes, ils soient hologues ou qu'ils soient ailleurs, je ne vois pas le rapport. Le problème, c'est qu'ils râlent parce qu'on gagne plus que eux. Mais mec, ils sont pas belles, ils ont des poils, ils ont des super longs pieds, donc je trouve que c'est normal que personne veut les mettre dans des publicités. Donc pour moi, la vraie question, c'est pas de savoir pourquoi chez les mannequins, les femmes gagnent plus que les hommes. La vraie question, c'est de savoir pourquoi dans tous les autres métiers, que ça soit viticulteur, que ça soit instituteur, que ça soit aspirateur, pardon, aspirateur, c'est pas un métier, les hommes gagnent plus que les femmes. Je suis désolée, on a les mêmes compétences, la seule chose qu'on n'a pas, c'est un zizi. Mais un zizi, pour moi, pardon, ça n'est pas un outil de travail. Je veux dire, Raphaël Nadal, il joue pas au tennis avec son pénis. Un aviateur, il tient pas le manche avec son manche. Un cosmonaute, il se lance pas en orbite avec sa bistouquette. Donc, un professeur, il va pas écrire sur le tableau avec son zizi, ou alors s'il le fait, c'est qu'il est bête, parce qu'on va rien voir de ce qu'il écrit, et qu'il peut se faire très mal. Donc, pour moi, avoir un zizi, ça ne justifie pas que les hommes gagnent 400 euros de plus par mois. Si encore le zizi, ça coûtait de l'argent. Genre comme un enfant. Un enfant, c'est vrai, ça coûte de l'argent de le nourrir, de l'élever. Donc, je trouve que c'est normal d'avoir une allocation pour ça. Mais je suis désolée, moi, des zizi, j'en ai vu plein. J'en ai vu qu'un certain nombre. Et un zizi, ça s'élève tout seul le matin, mais oui, le matin, apparemment je suis pas la seule à en avoir vu plein. Le matin, tu te lèves, même pas tu lui donnes de petit déj, pouf, debout, il se met en élection, tu sais, genre tout de suite le zizi, hop, il est candidat, votez pour moi. Mais moi je suis pas Kadhafi, j'ai pas envie, je suis désolée de financer sa campagne électorale matinale, quoi. Enfin, surtout pour 400 euros par mois, je suis désolée, même un chien ça ne bouffe pas 400 euros par mois de croquettes. Donc moi maintenant je pose vraiment la question aux hommes, honnêtement, Qu'est-ce que vous donnez à manger à votre zizi? Qu'est-ce que vous faites avec 400 euros par mois pour votre zizi? Je sais pas, vous lui filez des tartines de caviar ou vous l'emmenez faire des balades. Oh chérie, ce soir je serai pas là, je vais aller voir la Traviata avec mon zizi. Ouais. Non, moi j'y vais en bus, mais lui il va en taxi. Ah bah attends quand même, c'est mon zizi. Ouais, oh. Je veux dire, 400 euros par mois, ça fait quand même 5000 euros l'année, d'accord? 5000 euros l'année, ça... Non, mais franchement, un zizi, bientôt, c'est plus cher que de la drogue. Non, mais c'est vrai, je suis désolée. Non, mais quand tu vois... moi, quand je vois, tu vois, le prix de la cocaïne sur Internet... on en est presque là. Parce que... Bon, combien ça pèse, un zizi? Combien ça pèse? 300 grammes. Allez, 500 grammes les jours de fête. Attends, ça veut dire... Non, mais ça fait quand même 5000 euros les 500 grammes de saucisses. Franchement, franchement, ça fait cher la merguez, quoi. Surtout qu'en plus, le zizi, contrairement à la drogue, t'es même pas sûr de planer. Et en plus, ça voudrait tous les métiers du monde. Donc non, moi, pour conclure, je vais vous dire, pour moi, les zizi, c'est exactement comme les top modèles femmes. Tu crois que c'est une toute petite chose fragile, et en fait, ça prend toute la place.
En effet, l'homme représente aujourd'hui le positif et le neutre, c'est-à-dire le mâle et l'être humain. Tandis que la femme est seulement le négatif, la femelle. Chaque fois qu'elle se conduit en être humain, on déclare donc qu'elle s'identifie au mâle. Ses activités sportives, politiques, intellectuelles, son désir pour d'autres femmes sont interprétés comme une protestation virile. On refuse de tenir compte des valeurs vers lesquelles elle se transcende, ce qui conduit évidemment à considérer qu'elle fait le choix inauthentique d'une attitude subjective. Le grand malentendu sur lequel repose ce système d'interprétation, c'est qu'on admet qu'il est naturel pour l'être humain femelle de faire de soi une femme féminine. Il ne suffit pas d'être une hétérosexuelle, ni même une mère, pour réaliser cet idéal. La vraie femme est un produit artificiel que la civilisation fabrique, comme naguère en fabriquait des castrats. Ses prétendus instincts de coquetterie, de docilité, lui sont insufflés comme à l'homme l'orgueil phallique. Il n'accepte pas toujours sa vocation virile. Elle a de bonnes raisons pour accepter moins docilement encore celle qui lui est assignée.
Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord, j'ai les cheveux trop longs. Mes ongles, c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille, c'est pas pour écouter. Pour les connaisseurs, c'est un fruit. Je suis une confiture. Je suis une pâture. Je suis un liseron. Je suis un édredon. Je suis une poupée et je suis un gibier. Je suis la femme. Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas les orienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir. Je suis un reposoir. Un monstre familier. Une puce dressée. Poète, prends ta lyre. Tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
Après plusieurs années de bonnes, loyales et sincères investigations, j'en ai quand même déduit que la féminité, c'est la putasserie. L'art de la servilité. On peut appeler ça séduction et en faire un machin glamour. Ça n'est un sport de haut niveau que dans très peu de cas. Massivement, c'est juste prendre l'habitude de se comporter en inférieur. Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes, vouloir leur plaire. Ne pas parler trop fort, ne pas s'exprimer sur un ton catégorique, ne pas s'asseoir en écartant les jambes pour être bien assise. Ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire, ne pas parler d'argent, ne pas vouloir prendre le pouvoir. Ne pas vouloir occuper un poste d'autorité. Ne pas chercher le prestige. Ne pas rire trop fort. Ne pas être soi-même trop marrante. Plaire aux hommes est un art compliqué qui demande qu'on gomme tout ce qui relève du domaine de la puissance. Pendant ce temps, les hommes, en tout cas ceux de mon âge et plus, n'ont pas de corps, pas d'âge, pas de corpulence. N'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve à gros bides et look pourri, pourra se permettre des réflexions sur le physique des filles, des réflexions désagréables s'il ne les trouve pas assez pimpantes, ou des remarques dégueulasses s'il est mécontent de ne pas pouvoir les sauter. Ce sont les avantages de son sexe. La chaudasserie la plus pathétique, les hommes veulent nous la refourguer comme sympathique et pulsionnelle. Mais c'est rare d'être Bukowski. La plupart du temps, c'est juste des tocards lambda. Comme si moi, parce que j'ai un vagin, je me croyais bonne comme Greta Garbo. Être complexée, voilà qui est féminin. Effacée, bien écoutée, ne pas trop briller intellectuellement, juste assez cultivée pour comprendre ce qu'un bellâtre a à raconter. Bavarder est féminin. Tout ce qui ne laisse pas de traces, ce qui est domestique, se refait tous les jours, ne porte pas de nom. Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses, les petites choses, mignonnes, féminines. Mais boire, viril. Avoir des potes, viril. Faire le pitre, viril. Gagner plein de thunes, viril. Avoir une grosse voiture, viril. Se tenir n'importe comment, viril. Ricaner en fumant des joints, viril. Avoir l'esprit de compétition, viril. Être agressif, viril. Vouloir baiser avec plein de monde, viril. Répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace, viril. Ne pas prendre le temps de s'arranger le matin, viril. Porter des fringues parce qu'elles sont pratiques, viril. Tout ce qui est marrant à faire est viril. Tout ce qui permet de survivre est viril. Tout ce qui fait gagner du terrain est viril. Ça n'a pas tellement changé en 40 ans.
De la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste alors. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de lol. Oh, machiste alors. Je me brise au whisky glace. Mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu. Malade pas beau quand j'ai trop bu. Ce magazine nous contamine. Je préfère encore les fanzines. Pour la télé y'a pas photo. Je préfère Hervé qui joue l'idiot. Point de vue image du monde à votre âge. C'est immonde de vivre sur le cul de ces individus qui n'ont pas plus à dire que Raoul se satire. Je suis un machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non.
non, 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 y a pas de là. Oh, Mathis Tadel. J'ai le membre en poche et d'un pas pragmatique, je pratique la drague, mais ma poitrine est imberbe. Il faut y remédier pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne avec un long manteau à chapeau. Non, pas la peine. Même les jours difficiles, j'ai toujours les mots piles. Ici c'est un machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de rôle. Ah, oh, machiste adore. Machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de rôle. Ensemble, allez, macho, macho, machistador, macho, macho.
J'adore.
Macho, macho, machistador, macho, macho.
J'adore.
Allez, macho, macho, machistador, macho, macho.
J'adore.
Ouais, macho, macho, machistador, macho, macho.
Reportage sur une chaîne d'info du câble. Un documentaire sur des filles de banlieue. Plus exactement, sur leur inquiétante perte de féminité. On voit trois gamines à bonne tête, jurées comme des charretiers, et l'une d'entre elles tente d'attraper je ne sais qui dans une cage d'escalier dans l'espoir de lui mettre une trempe. Quartier désolé, jeunesse désœuvrée, des gosses qui savent qu'ils n'auront probablement pas plus de chance que leurs parents, c'est-à-dire que dalle. Ces images toujours un peu troubles pour quelqu'un de mon âge, d'une France qui est devenue un pays du quart-monde, une pauvreté extrême jouxtant le luxe le plus indécent. Ce qui inquiète les commentateurs, et ils le disent sans rigoler, c'est que ces filles ne portent jamais de jupe. Et qu'elles parlent mal. Ça les surprend. Ils sont sincères. Ils s'imaginent tranquilles que les filles naissent dans des sortes de roses virtuelles et qu'elles devraient devenir des créatures douces et paisibles. Même plongé dans un milieu hostile où il vaut mieux savoir jouer du coup de boule pour exister un minimum. Les femmes devraient s'occuper de jolies choses en arrosant des fleurs et en chantonnant tout doucement. C'est vraiment tout ce qui les inquiète dans ce qu'ils ont filmé. Ces femmes ne ressemblent pas aux femmes des beaux quartiers, aux gosses des magazines, aux filles des grandes écoles. Le journaliste qui a écrit ce commentaire a l'impression que c'est naturel d'être une femme comme celle qui l'entoure, que cette féminité n'a pas de race, pas de classe, n'est pas construite politiquement. Il croit que si on laisse les femmes être ce qu'elles doivent être naturellement, de la manière poétique la plus admirable, elles deviennent comme les femmes qui travaillent et dînent autour de lui, des bourgeoises blanches, bien comme il faut. Ça n'est pas seulement ma nature profonde dans ce qu'elle avait de différent, de brutal, d'agressif, de puissant que j'ai commencé à mater. C'est aussi ma classe sociale que j'ai appris à renier. Ça n'a pas été une décision consciente, plutôt un calcul de survie sociale. Limiter les mouvements physiquement, préférer les gestes doux, ralentir la diction, privilégier ce qui ne fait pas peur, devenir blonde, refaire mes dents, me mettre en couple avec un homme plus vieux, plus riche, plus connu, vouloir un enfant, faire comme ils font. Après le scandale du film, me fondre un peu dans leur décor. Le temps de voir, arrêter de boire, autant pour préserver mon look que pour éviter la désinhibition de l'alcool. Les comportements virils qui vont avec, coucher avec n'importe qui, prendre le voisin par l'épaule, faire du bruit, rire trop fort. J'ai réintégré ma catégorie, telle que penser dans mon nouveau milieu. Porter du rose et des bracelets brillants. J'ai vraiment fait de mon mieux pour passer plus inaperçu. Ça n'a pas été neutre. C'était un affaiblissement consenti. Heureusement, il y a Courtney Love. En particulier, et le punk rock en général, une tendance à aimer le conflit. Je me refais une santé mentale dans mon ombre de blonde. Le monstre en moi ne lâche pas l'affaire. Je me fais plaquer, je n'ai pas d'enfant, j'en crève le jour de mes 35 ans. Sans trop savoir au juste si je souhaite encore une preuve à brandir au monde que je suis une femme comme une autre, avec tout ce qu'on m'a répété. Vous haïssez donc tous les hommes ? J'ai voulu prouver le contraire. Quelle drôle d'idée. Tâchez de prouver que je suis une femme aimable, qui fait même des enfants, comme prescrit dans la presse. Mais on a la vie qu'on doit avoir, car tout ça ne marche pas très fort pour moi. Je ne suis pas douce, je ne suis pas aimable, je ne suis pas une bourge, j'ai des montées d'hormones qui me font comme des fulgurances d'agressivité. Si je ne venais pas du punk rock, j'aurais honte de ce que je suis. Sur Internet, je tombe par hasard sur une lettre signée Antonin Artaud. Une lettre de rupture, d'éloignement en tous les cas, adressée à une femme qu'il déclare ne pouvoir aimer. J'entends bien que dans le détail, son affaire doit être compliquée, mais à l'arrivée, ça donne ça. J'ai besoin d'une femme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Je suis désespérée de solitude. Je ne peux plus rentrer le soir dans une chambre seule et sans aucune des facilités de la vie à portée de ma main. Il me faut un intérieur et il me le faut tout de suite, et une femme qui s'occupe sans cesse de moi pour les plus petites choses. Une artiste comme toi a sa vie, elle ne peut pas faire cela. Tout ce que je te dis est d'un égoïsme féroce, mais c'est ainsi. Il ne m'est même pas nécessaire que cette femme soit très jolie. Je ne veux pas non plus qu'elle soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'elle réfléchisse trop. Il me suffit qu'elle soit attachée à moi. Depuis petite, depuis Goldorak et Candy, qui passaient à la suite à la sortie de l'école, j'ai la passion d'inverser, juste pour voir. J'ai besoin d'un homme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Ça sonne tout de suite différemment. L'homme n'est pas là pour rester à la maison ni pour être possédé. Quand bien même j'aurais besoin ou envie d'un homme qui serait uniquement à moi, tout me conseille de modérer mes ardeurs et au contraire d'être entièrement à lui. C'est pas la même chanson. Il n'y a personne alentour qui soit politiquement assigné à sacrifier sa vie pour adoucir la mienne. Ça n'est pas réciproque comme rapport d'utilité. De la même façon, je ne pourrai jamais écrire en toute bonne foi égoïste. Il me faut un intérieur, tout de suite, et un homme qui s'occupe sans cesse de moi pour les plus petites choses. Si jamais je rencontre pareil homme, c'est que j'aurai les moyens de le salarier. Il ne m'est même pas nécessaire que cet homme soit très mignon, je ne veux pas non plus qu'il soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'il réfléchisse trop. Il me suffit qu'il soit attaché à moi. Ma puissance ne reposera jamais sur l'inféodation de l'autre moitié de l'humanité. Un être humain sur deux n'a pas été mis au monde pour m'obéir, s'occuper de mon intérieur, élever mes enfants, me plaire, me distraire, me rassurer sur la puissance de mon intelligence, me procurer le repos après la bataille, s'appliquer à bien me nourrir, et tant mieux. Dans la littérature féminine, les exemples d'effronterie ou d'hostilité contre les hommes sont rarissimes, censurés. Moi, je suis de ce sexe-là qui n'a même pas le droit de mal le prendre. Colette, Duras, Beauvoir, Yourcenar, Sagan, toute une histoire de femmes auteurs qui toutes prennent soin de montrer patte blanche, de rassurer les hommes, de s'excuser d'écrire en répétant combien elles les aiment, les respectent, les chérissent et ne veulent surtout pas, quoi qu'elles écrivent, trop foutre le bordel. On sait toutes que sinon, la meute s'occupera soigneusement de ton cas. 1948, Antonin Artaud meurt, Genet, Bataille, Breton. Les hommes font exploser les limites du disciple. Violette Leduc entreprend la rédaction de ce qui deviendra Thérèse et Isabelle. Texte magistral. Beauvoir, à sa lecture, écrit immédiatement « Quand t'as publié ça, impossible, c'est une histoire de sexualité lesbienne aussi crue que du Genet. » Violette Leduc édulcore le texte que Queneau refuse aussitôt. Impossible à publier ouvertement, il faut attendre 1966 pour que Gallimard l'édite. Moi, je suis de ce sexe-là, celui qui doit se taire, qu'on fait taire, et qui doit le prendre avec courtoisie, encore montrer patte blanche, sinon c'est l'effacement. Les hommes savent pour nous ce que nous pouvons dire de nous, et les femmes, si elles veulent survivre, doivent apprendre à comprendre l'ordre, qu'on ne vienne pas me raconter que les choses ont tant évolué, qu'on est passé à autre chose, pas à moi. Ce que je supporte en tant qu'écrivain femme, c'est deux fois ce qu'un homme supporte. Simone de Beauvoir qui commence les lettres au castor par cette première lettre que lui écrit Sartre. Voulez-vous être assez bonne pour donner mon linge, tiroir inférieur de l'armoire, à la blanchisseuse ce matin? Je laisse la clé sur la porte. Je vous aime tendrement, mon amour. Vous aviez une petite tête charmante hier en disant « Ah, vous m'aviez regardé, vous m'aviez regardé ». Et quand j'y pense, mon cœur se fend de tendresse. Au revoir, petit bon. Qu'on inverse le tout, et le linge, et la petite tête charmante, on comprend mieux de quel sexe on est. Celui du linge sale des autres et des petites têtes charmantes.
J'ai acheté une petite fleur, une vraie perle végétale, avec une tige pleine d'épines, sous un gros bouquet de pétales. J'ai travaillé dessus des heures, parfois même jusqu'aux aurores, à la greffer jusqu'à en faire une vraie plante carnivore. Il faut dire qu'à mes heures perdues, je suis un petit peu botaniste. Chaque fois que je peux triturer une plante, je me sens comme qui dirait artiste. Je l'ai plantée devant chez moi. Si vous venez, elle vous bouffera. J'ai acheté un petit chien, une sorte de berger allemand. Un petit chiot tout mignon, tout plein, avec une gueule pleine de dents. J'ai travaillé dessus des heures, parfois même jusqu'aux aurores, à le dresser jusqu'à en faire une sorte de brontosaure. Il faut dire qu'à mes heures perdues, je suis un petit peu spécialiste en chien, figurez-vous que ça me donne l'impression d'être un peu artiste. Il monte la garde devant chez moi, si vous venez, il vous mordra. Dégoté une petite femme que j'ai sauvée de la misère, qui passe son temps à la cuisine et qui s'occupe de mes affaires. J'ai travaillé dessus des heures, parfois même toute la nuit, à la frustrer jusqu'à en faire un vrai cas de pathologie. Il faut dire qu'à mes heures perdues, je suis un petit peu machiste. Chaque fois que je peux maltraiter ma femme, ça me donne l'impression que j'existe. C'est devenu un vrai animal. Si vous venez, elle vous recevra mal. Et puis je lui ai fait des gosses, il y en a partout dans la maison. Premier s'appelle je sais plus comment, et les autres n'ont pas de prénom. J'ai travaillé dessus des années jusqu'à ce qu'ils aient le front étroit à les dresser et les instruire. Maintenant ce sont de vrais soldats. Faut dire qu'à force de perdre des heures, je suis devenu un petit peu fasciste. Chaque fois que je peux maltraiter des gens, ça me donne l'impression que j'existe. Les enfants sont devant ma maison, quand vous viendrez ils vous tueront. Les plantes carnivores, le chien qui est un vrai dinosaure, ma femme en haut de son mirador, et les enfants qui aiment la mort, alors vous me trouverez là, et je vous ouvrirai les bras.
Quand on lui demande ce que le mot racisme signifie pour elle, l'intellectuelle américaine Ruth Gilmore répond que le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. Cette définition fonctionne aussi pour la domination masculine, la haine de l'homosexualité ou des transgenres, la domination de classe, tous les phénomènes d'oppression sociale et politique. Si l'on considère la politique comme le gouvernement de vivants par d'autres vivants, et l'existence des individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisie, alors la politique, c'est la distinction entre des populations à la vie soutenue, encouragée, protégée, et des populations exposées à la mort, à la persécution, au meurtre. Le mois dernier, je suis venue te voir dans la petite ville du Nord où tu habites maintenant. C'est une ville laide et grise. La mer est à quelques kilomètres à peine, mais tu n'y vas jamais. Je ne t'avais pas vue depuis plusieurs mois. C'était il y a longtemps. Au moment où tu m'as ouvert la porte, je ne t'ai pas reconnue. Je t'ai regardée, j'essayais de lire les années passées loin de toi sur ton visage. Plus tard, la femme avec qui tu vis m'a expliqué que tu ne pouvais presque plus marcher. Elle m'a dit aussi que tu avais besoin d'un appareil pour respirer la nuit où ton cœur s'arrête. Il ne peut plus battre sans assistance, sans l'aide d'une machine. Il ne veut plus battre. Quand tu t'es levée pour aller aux toilettes et que tu es revenue, je l'ai vue. Les 10 mètres que tu as parcourus t'ont essoufflé. Tu as dû t'asseoir pour reprendre ta respiration. Tu t'es excusé. C'est une chose nouvelle, les excuses de ta part. Je dois m'y habituer. Tu m'as expliqué que tu souffrais d'une forme de diabète grave, en plus du cholestérol, que tu pouvais faire un arrêt cardiaque à n'importe quel moment. En me décrivant tout ça, tu perdais ton souffle. Ta poitrine se vidait de son oxygène, comme si elle fuyait. Même parler était un effort trop intense, trop grand. Je te voyais lutter contre ton corps, mais j'essayais de faire comme si je ne remarquais rien. La semaine d'avant, tu avais été opérée pour ce que les médecins appellent une éventration. Je ne connaissais pas le mot. Ton corps est devenu trop lourd pour lui-même. Ton ventre s'étire vers le sol. Il s'étire trop, trop fort, tellement fort qu'il se déchire de l'intérieur, qu'il s'arrache de son propre poids, de sa propre masse. Tu ne peux plus conduire sans te mettre en danger, tu n'as plus le droit de boire de l'alcool, tu ne peux plus te doucher ou aller travailler sans prendre des risques immenses. Tu as à peine plus de 50 ans, tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce. Pendant toute mon enfance, j'ai espéré ton absence. Je rentrais de l'école en fin d'après-midi aux alentours de 5 heures. Je savais qu'au moment où je m'approchais de chez nous, si ta voiture n'était pas garée devant notre maison, cela voulait dire que tu étais parti au café ou chez ton frère et que tu rentrerais tard, peut-être au début de la nuit. Si je ne voyais pas ta voiture sur le trottoir devant la maison, je savais qu'on mangerait sans toi, que ma mère finirait par hausser les épaules et nous servir le repas, et que je ne te verrais pas avant le lendemain. Tous les jours, quand je m'approchais de notre rue, je pensais à ta voiture et je priais dans ma tête. Faites qu'elle ne soit pas là. Faites qu'elle ne soit pas là. Faites qu'elle ne soit pas là. Je n'ai appris à te connaître que par accident ou par les autres. Il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé à ma mère comment elle t'avait rencontré et pourquoi elle était tombée amoureuse de toi. Elle a répondu « le parfum ». Il portait du parfum. Et à cette époque-là, tu sais, ce n'était pas comme maintenant. Les hommes ne mettaient jamais de parfum, ça ne se faisait pas. Mais ton père, oui. Lui, oui. Il était différent. Il sentait tellement bon. Elle avait continué. C'était lui qui voulait de moi. Moi, je venais de divorcer de mon premier mari. J'avais réussi à m'en débarrasser et j'étais plus heureuse comme ça, sans homme. Les femmes sont toujours plus heureuses sans homme. Sauf qu'il a insisté. Il arrivait à chaque fois avec du chocolat ou avec des fleurs. Alors j'ai fini par céder. J'ai cédé.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit, et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts. Dans le ciel passaient des nuages, il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris. Montrant son cœur ici, personne ne savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin, mon légionnaire. Qu'on s'en irait loin, tous les deux, dans quelque pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud, mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
Un soir où j'étais seule parce que vous étiez partie manger chez des amis et que je n'avais pas voulu vous accompagner, souvenir du poêle à bois qui diffusait dans toute la maison son odeur de cendre et sa lumière calmement orangée. J'avais trouvé dans un vieil album de famille, rongé par les mites et par l'humidité, des photos sur lesquelles tu étais déguisée en femme, en majorette. Depuis ma naissance, je t'avais vu mépriser tous les signes de féminité chez un homme. Je t'avais entendu dire qu'un homme ne devait jamais se comporter comme une femme, jamais. Tu semblais avoir à peu près 30 ans sur les clichés. Je pense que j'étais née déjà. J'ai observé jusqu'au bout de la nuit ces images de ton corps habillé d'une jupe, de la perruque sur ta tête, du rouge sur tes lèvres, de la poitrine artificielle sous ton t-shirt que tu avais dû bricoler avec du coton et un soutien-gorge. Le plus étonnant pour moi, c'est que tu avais l'air heureux, tu souriais. J'ai volé une de ces photos et j'ai essayé de la déchiffrer ensuite, plusieurs fois par semaine, en la sortant du tiroir où je l'avais cachée. Je ne t'ai rien dit. Un jour, j'ai écrit dans un carnet à propos de toi, « Faire l'histoire de sa vie, c'est écrire l'histoire de mon absence ». Une autre fois, je t'ai surpris en train de regarder un opéra retransmis en direct à la télé. Tu n'avais jamais fait ça avant, pas devant moi. Quand la cantatrice a chanté sa complainte, j'ai vu tes yeux se mettre à briller. Le plus incompréhensible, c'est que même ceux qui ne parviennent pas toujours à respecter les normes et les règles imposées par le monde, s'acharnent à les faire respecter, comme toi, quand tu disais qu'un homme ne devrait jamais pleurer. Est-ce que tu souffrais de cette chose, de ce paradoxe ? Est-ce que tu avais honte de pleurer, toi qui répétais qu'un homme ne devrait pas pleurer ? Je voudrais te dire, je pleure aussi, beaucoup, souvent. 2001, soirée d'hiver encore. Tu as invité du monde pour manger avec nous. Beaucoup d'amis. Ce n'est pas quelque chose que tu faisais souvent et j'ai eu l'idée de préparer un spectacle pour toi et pour les adultes qui étaient là. J'ai proposé à tous les enfants assis autour de la table, trois garçons en plus de moi, de venir dans ma chambre pour se préparer et répéter. J'avais décidé qu'on imiterait le concert d'un groupe de pop qui s'appelait Aqua. J'ai inventé des chorégraphies pendant plus d'une heure, des mouvements, des gestes, je donnais les ordres. J'avais choisi d'être la chanteuse. Les trois autres garçons feraient les chœurs et les musiciens en grattant sur des guitares invisibles. Je suis entrée le premier dans la salle à manger, les autres me suivaient. J'ai donné le signal et nous avons commencé le spectacle. Mais tu as tout de suite tourné la tête. Je ne comprenais pas. Tous les adultes nous regardaient, mais pas toi. Je chantais plus fort, je dansais avec des gestes plus violents pour que tu me remarques, mais tu ne regardais pas. Je te disais « Papa, regarde, regarde !» Je luttais, mais tu ne regardais pas. Quand tu conduisais la voiture, je te disais « Fais le pilote de Formule 1 !» Et tu accélérais, tu allais à plus de 150 km/h, sur des petites routes de campagne. Ma mère avait peur, elle criait, elle te traitait de fou, et toi tu me regardais dans le rétroviseur en souriant. Tu es né dans une famille de 6 ou 7 enfants. Ton père travaillait à l'usine, ta mère ne travaillait pas, il n'avait jamais connu autre chose que la pauvreté, je n'ai presque rien d'autre à dire sur ton enfance. Ton père est parti quand tu avais 5 ans, c'est une histoire que je raconte beaucoup. Un matin, il est parti pour travailler à l'usine, il n'est pas revenu le soir. Ta mère, ma grand-mère, me disait qu'elle l'avait attendu. Elle n'avait pu faire ça, que ça, de toute façon, toute la première partie de sa vie, l'attendre. Je lui avais préparé à manger pour le soir, on l'a attendu comme d'habitude, mais il n'est plus jamais revenu. Ton père buvait beaucoup et certains soirs, à cause de l'alcool, il frappait ta mère. Il attrapait des assiettes, des petits objets, parfois des chaises même, qu'il lui jetait au visage avant de s'avancer vers elle pour la frapper avec ses poings. Je ne sais pas si ta mère criait ou si elle endurait la douleur en silence. Toi, tu les regardais sans pouvoir rien faire, impuissant, enfermé dans ton corps d'enfant. Ça aussi, je l'ai déjà raconté. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se répéter quand je parle de ta vie, puisque des vies comme la tienne, personne n'a envie de les entendre ? Est-ce qu'il ne faudrait pas se répéter jusqu'à ce qu'ils nous écoutent, pour les forcer à nous écouter ? Est-ce qu'il ne faudrait pas crier ?
Qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois fainéant, tu vivras content. Sois fainéant, tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, baise et collectionne les véroles, la médecine fait quelques progrès. Tandis qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage, où déjà se sont entassés ceux qu'on crut dans la société. Sois fainéant, sois fainéant, tu vivras content. Sois fainéant, sois fainéant, tu vivras longtemps. Moins tu en fais, plus tu laisses faire, plus ta santé déjà précaire te libère de ses tourments. Gagner ta vie ne vaut pas le coup, attendu que tu l'as déjà, le boulot y en a pas beaucoup. Faut le laisser à ceux qui aiment ça. Sois fainéant, sois fainéant, tu vivras content. Sois fainéant, tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un copain, tu en auras moins de chagrin.
Vous étiez dans Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Patchwork de mots, de sons et de notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres. Ce soir, vous avez entendu.
Ce soir, vous avez entendu des poèmes. Des poèmes lus par James, de Charles Baudelaire, d'Antonin Artaud, de Raymond Queneau, de Huysmans, d'Aimé Césaire, de Stéphane Mallarmé, de James Fontaine. Vous avez entendu un extrait du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, des extraits de King Kong Theory de Virginie Despentes et de Qui a tué mon père d'Édouard Louis. Vous avez aussi entendu des musiques, des Stranglers de Shigeru Umebayashi, de Curtis Mayfield, de Camille Saint-Saëns, des chants d'oiseaux, des musiques de Moussorgsky, d'Éric Satie, de Brigitte Fontaine, de Mathieu Chédid, X-Ray Specs, des Joyeux Urbains et un sketch de Nicole Ferroni. Ainsi que notre ami Régis Dina en direct des rives du Gange. Nous nous retrouvons le 26 juillet pour la prochaine émission. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de garder tes volets fermés ou de laisser entrer la lumière.